J'ai trouvé très intéressant, vous avez vu ces petits oiseaux, c'est comme si c'était vos enfants. Moi aussi. On arrive tranquille, là c'est cool, on fait notre espace, on veut ce qu'on veut. Et on arrive tranquille, et là il y a un autre de nos amis qui vient, hey, casse-toi, c'était quand même mon endroit. Mais ça va, on s'accepte, d'accord? Entre jeunes, on s'accepte. Et là, il y a le parent qui arrive. Salut les enfants! Et là ils sont là, non regarde, il y a le vieux qui arrive. Oh non, c'est pas possible, t'as vu? Et ce parent, j'ai symbolisé, c'était le parent qui vient et qui veut être au milieu de ses enfants. Et les enfants, ils sont là, mais non, on ne veut pas, on ne veut pas. Et puis lui, il est là, mais oui, j'ai envie d'être avec vous, faites-moi confiance. Et ensuite, vous voyez, ils se mettent tous ensemble pour le faire partir. Et à la fin, c'est quoi? Ils se retrouvent tout nus, sans rien, cachés derrière le parent. Ils auraient dû l'écouter, ils auraient dû le garder avec. Vous savez combien c'est précieux d'être avec ses parents, d'honorer ses parents, de les écouter. Et ce soir, je suis plus que privilégié de vous voir ici, parents. Je sais que tous les parents n'ont pas pu être ici, et je suis très heureux, et je vous dis bravo à vous qui avez pris ce défi de venir au groupe de jeunes un vendredi soir. Et j'aimerais maintenant vous demander simplement de prier avec moi pour ce message, parce que c'est la parole de Dieu, et c'est que le Saint-Esprit qui peut nous parler. Père, je bénis ton nom pour ce temps, je te remercie parce que tu es avec nous et tu es tout le temps avec nous. Je me mets devant toi, Seigneur, maintenant et je désire être ton outil, ton serviteur, ton fils, avec qui tu peux simplement partager ta parole. Saint-Esprit, ouvre les cœurs de ceux qui sont là et de celles qui sont ici assis. Ouvre les cœurs des enfants et des parents. Que nous puissions recevoir ce que toi tu veux nous dire, parce que tu as quelque chose à dire à chacun et chacune qui est ici ce soir. Père, aide-moi que ce message te rende gloire et que beaucoup puissent te reconnaître ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai pas l'habitude, c'est vrai, d'être devant des jeunes et des parents le vendredi soir, mais vous savez, je ne vais pas vous redire depuis combien de temps je rêve de cette soirée. Mais le Seigneur, il y a plusieurs mois déjà, ça fait un moment que j'en avais parlé aux responsables, j'ai dit, il faudrait qu'on fasse une soirée pour nos parents. Il faudrait qu'on fasse une soirée pour nos parents. Et aujourd'hui, c'est la soirée. Et je peux vous dire que plusieurs d'entre nous, on a prié. On a dit, Seigneur, ce soir, c'est ta soirée, comme chacune de ces soirées le vendredi soir. Œuvre dans le cœur de nos parents et œuvre dans nos cœurs. Et en plus, vous avez bien fait, vous savez pourquoi? Parce que le thème de cette soirée, si important, vous le connaissez. Parents, gâtez vos enfants. C'est ça le thème. Non, c'est pas ça, pardon. C'est pas ça, je retire, excusez-moi. Parents, résistez aux caprices de vos enfants. C'est toujours pas ça, non, c'est pas ça. Parents, réjouissez-vous de vos enfants. C'est pas mal, vous pouvez dire amen, c'est bon, c'est pas mal. Mais c'est pas ça, c'est toujours pas ça. Écoutez, Éphésiens 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Amen. C'est la parole de Dieu. Enfants, honore ton père et ta mère. Que tous les enfants disent amen. 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 Donc c'est tous ensemble, hein. On est tous enfants, d'accord? Si jamais, je vous rappelle. Vous avez peut-être des enfants, mais vous êtes aussi enfant de quelqu'un, d'accord? Donc, que tous les enfants disent « Amen, Amen ». C'est bien. Je vois que ça fonctionne, c'est magnifique. Ça sonne bien. Comme ça, on dit « Enfant, honore ton père et ta mère », ça a l'air cool. Et je pense que beaucoup des parents se disent « Ouais, j'ai envie de ça ». Mais ce n'est pas si simple en réalité. Et j'ai l'impression que ça ne se passe pas dans beaucoup de foyers non plus. Je crois que nous pouvons et nous devons désirer vivre cette relation entre enfants et parents. Il le faut. Nous, on doit désirer. Et on a le droit de désirer à cette relation. Laissez-moi vous rappeler que ceci, honore ton père et ta mère, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est ce qu'il souhaite que nous puissions vivre avec nos enfants. Il a toujours souhaité que nous puissions vivre des relations basées sur le respect et l'obéissance, des relations saines, des relations saines. On en a besoin et c'est le souhait de Dieu. De la même manière, Dieu souhaite aussi que nous ayons une relation similaire avec lui, une relation saine, comme celle qu'il a eue avec son fils Jésus, une relation d'obéissance, de soumission. Il est vrai néanmoins qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans cette société, aspirer à honorer ses parents, vivre de telles relations, ça devient très difficile. Et je crois que beaucoup d'entre nous peuvent le dire. Je ne connais pas beaucoup de mes amis. « Oh, c'est parfait chez moi. J'ai une tellement bonne relation avec mes parents. Ils ne m'énervent jamais, je ne les énerve jamais. » N'est-ce pas? Et pourtant, c'est le souhait de Dieu. Qu'est-ce qui cause cette difficulté à avoir une relation saine entre enfants et parents? Quelle est la raison? Qui sont les coupables? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est les autres? C'est toujours plus facile quand c'est les autres, n'est-ce pas? C'est sa faute si on ne s'entend pas. C'est à cause du professeur, j'ai une mauvaise note et puis mon papa il n'est pas content, ma maman n'est pas contente, donc c'est la faute du professeur qu'on ne s'entend pas à la maison. Non? Ça vous est jamais arrivé? Non, d'accord, ok, peut-être je suis le seul alors. Quand je rentrais avec des mauvaises notes et puis que c'était plus difficile. D'accord, vous avez tous des bonnes notes, c'est pas grave. Je suis devant une audience merveilleuse. Merci Seigneur. Bon, en fait, je vais m'asseoir, je pense. Non, j'ai encore des choses à vous partager ce soir. Vous savez pourquoi c'est si difficile? C'est très simple. Nous avons désobéi. Nous avons désobéi. Attends, tu vas me dire, mais Nico, non, on n'a pas désobéi. C'est nos arrière, quoi, c'est Adam et Ève, quoi. Hein. C'est eux qui ont désobéi. Nous, on n'a pas désobéi. Nous, on a seulement hérité de leur désobéissance. Et on est devenus désobéissants avec eux. Hein. On a désobéi. Et la désobéissance, elle a procuré, qu'est-ce qu'elle a procuré? La joie? Non, elle a procuré la division. Elle a amené le péché. On peut appeler désobéissance le péché. Comme ça, c'est plus simple. Hein. On parle des choses concrètes ce soir. La désobéissance, le péché. Et le péché, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu diviser ce que Dieu avait prévu pour être uni. Il est venu détruire le plan parfait que Dieu avait prévu pour les relations. Des relations d'amour, d'honnêteté, de pardon. De toute façon, il n'y avait même pas besoin de se pardonner vu qu'on ne s'enfonçait pas avant le péché. On a désobéi. Et vous savez quoi? Et depuis, le diable, qui est l'auteur de cette fourberie qui est venue mentir, et qui a amené ce doute dans le cœur d'Adam et Ève, et qui a ensuite amené la désobéissance, le diable se réjouit. Et il a une seule mission, détruire, diviser, tuer ce que Dieu souhaitait être parfait. Et depuis ce jour, vous savez où il s'acharne particulièrement? Et je le vois en tant que pasteur jeunesse, je le vois et je le pleure, je peux vous dire. Il se déchaîne sur les familles. Il se déchaîne sur les familles, parce qu'une famille divisée, ce n'est pas simplement un papa et une maman qui est triste, c'est des enfants qui subissent. Et des enfants qui subissent, ça va faire quoi? Ça va faire des parents qui vont être pas bien. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? C'est en chaîne. Et le diable se déchaîne sur les familles. Mais je pense que c'est important ce soir de peut-être mieux comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce verset, qui a l'air des fois tellement utopique et pourtant réaliste pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire « enfant, obéis et honore ton père et ta mère » ? Ça veut vraiment dire quoi ? C'est quoi le fondement de cette pensée ? Est-ce que vous savez qu'on trouve plus de 5 fois ce verset dans la Bible ? Dit quasiment pareil. 4 versets qui le disent la même chose. C'est quand même intéressant. Est-ce que vous savez que c'est dans le 2e livre de la Bible qu'on le trouve pour la première fois en Exode 20, verset 12 ? À quel moment ? Au moment où Dieu va partager ses 10 paroles, ses 10 instructions, ses 10 commandements. Écoutez, Exode 20, verset 12, lorsque Dieu parle à son peuple, il va dire « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. » C'est dans le désert, au mont Sinaï, 3 mois après que le peuple d'Israël ait été délivré de 400 ans d'esclavage. C'est pas facile, hein ? Et à ce moment-là, Dieu veut que son peuple lui ressemble. Dieu veut que son peuple ne soit pas comme les autres. Alors il a dit, « Je vais vous transmettre mes instructions, mes paroles, afin que ceux qui vous verront reconnaissent que vous n'êtes pas de la même famille que les autres, que vous avez un Dieu qui vit, qui règne, et que vous appartenez à ce Dieu. » Est-ce que quelqu'un sait quel est le numéro de ce commandement ? À quelle position se trouve « Honore ton père et ta mère » ? Simon, tu sais ? Non ? 3e ? Non, presque. 4e ? Non. C'est le 5e. Je vous aide, c'est le 5e. Juste avant, il parle de se reposer du sabbat. Mais vous savez que c'est le premier des commandements qui parle du rapport avec les autres. Sur les 10 commandements, il y en a 6 qui parlent du rapport avec les autres. Sur 10, c'est quand même pas mal. Ça montre l'importance. Mais c'est le premier. Et le premier va parler de l'importance de la relation entre les parents et les enfants. Combien important et majeur c'est pour nous. Vous ne pensez pas ? Moi, j'en suis certain. J'en suis certain. D'accord. Dieu nous demande d'honorer nos parents. Mais ça veut dire quoi, concrètement ? Honorer, du mot hébreu « timao », qui signifie « estimer », fixer la valeur, mettre à l'honneur. Honorer ses parents commence par se rappeler que nous avons été créés et que nous devons estimer ceux qui nous ont donné la vie, peu importe qui ils sont, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. C'est estimer ceux qui nous ont donné la vie. Et je peux voir ma femme, je l'accompagne, j'étais encore ce matin, à midi, on était encore chez le gynécologue, je l'ai quasiment pas raté de rendez-vous. Ben, je peux dire que ce n'est pas simple de porter un enfant. Et on peut estimer ceux qui nous ont donné la vie. Nous avons tous un arbre généalogique, une histoire de famille. Le tonton, la tata, le frère, le grand-père, le grand-oncle, etc. Nous sommes liés les uns aux autres. Notre héritage vient en partie de notre famille, vous êtes d'accord ? Il y a une partie, c'est notre famille, une partie, c'est ce qu'on va vivre et créer de nous-mêmes. Et une partie, c'est l'héritage de la famille. On ne peut pas s'en détacher directement. On doit vivre avec et laisser Dieu le restaurer et laisser Dieu le glorifier. Amen. Dieu ne fait pas d'erreur, j'en suis convaincu. Il n'a pas fait d'erreur avec ma naissance, avec ta naissance. Ce n'est pas une erreur. Et celle de mes parents, de tes parents, ce n'est pas une erreur non plus. Ce n'est pas une erreur. Le plan de Dieu est parfait. Dieu t'a toujours souhaité. Dieu a toujours souhaité tes parents. Que tu les connaisses, que tu ne les connaisses plus, que tu aies été séparé d'eux, et c'est le cas pour certains malheureusement, Dieu a toujours souhaité ta vie. Donc en premier lieu, honorer signifie estimer ceux qui nous ont donné la vie. Merci maman de m'avoir porté pendant presque 9 mois. Ce soir, peut-être vous pourrez dire à vos mamans, merci de m'avoir porté, d'avoir fait attention à ce que tu mangeais. Tellement de choses qui coûtent pour donner la vie. Merci. Si estimer ceux qui nous ont accueillis dans ce monde est un point important. Reconnaître que la famille est le souhait de Dieu en est un autre. Moi, je n'ai jamais souhaité avoir des frères et des sœurs, et encore moins ses parents. La famille, je n'en ai pas besoin d'abord. Cela nous arrive, nous est peut-être arrivé de nous énerver suite à une remarque reçue de notre père, de notre mère, et là, tout explose. J'en ai marre de la famille, ça me saoule, je veux partir. Puis tu claques la porte, puis après, tu es là, mince, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire? 15 minutes après, salut papa, maman, je vais dans la chambre, tu m'appelles quand c'est prêt le repas? D'accord, ça marche. On veut rejeter cette structure familiale dans laquelle nous sommes. Pourquoi ces parents, Jésus? Pourquoi ce frère, cette sœur? Je n'ai pas choisi. Tu m'as vraiment mis à la bonne place, tu es sûr? Dieu, pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à ça ou je suis le seul? Oui, hein, ça me rassure. Mais rappelons-nous une chose. Si vous avez pensé à ça, rappelons-nous une chose. La famille est le plan de Dieu et même son plan premier. OK? Plan premier. Il y a eu Adam, vous vous rappelez, Adam merveilleux, donc c'est la représentation de l'homme. Voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Mais après, Dieu il a dit, oula, Adam, c'est pas top, il va falloir faire un peu mieux. Donc il a dit, Adam, endors-toi, je vais faire Ève. D'accord? Donc pour les femmes, Ève est arrivée, hein, elle est venue, voilà. Voilà ton vis-à-vis, voilà celle qui va t'aider à avancer dans la vie. Et là, Dieu a dit quoi? C'est merveilleux, c'est très bien. Il n'a pas dit juste c'est bien, il a dit c'est très bien. Parce que là, l'apothéose de sa création était finie. L'homme et la femme, ensemble. L'homme et la femme, ensemble, pour fonder la famille. Amen. C'est le plan parfait de Dieu et c'est son premier plan, la famille. Je me réjouis d'ailleurs. D'ici quelques semaines, c'est mon tour. Alors pour l'instant, je me réjouis parce que je dors. Peut-être qu'après, je me réjouirai moins, mais quand même, je me réjouis. La famille dans laquelle nous grandissons n'est sûrement pas parfaite, mais elle est le lieu dans lequel Dieu t'a placé et dans lequel il souhaite se révéler et t'accompagner. Honorer nos parents signifie donner de la valeur à notre structure familiale. Reconnaître que la famille parfaite n'existe pas. Allô, même à la télé, c'est des mensonges. Ça n'existe pas. Mais Dieu l'utilise pour nous apprendre à obéir, à pardonner, à persévérer, à s'encourager, à aimer, etc. Bref, à développer notre caractère. Et ô combien mes parents ont galéré avec mon caractère. Dieu a pris le relais, vous inquiétez pas. Et vous savez quoi? Et si tu crois que ta famille est compliquée, hein? Est-ce que les enfants, j'aimerais vous poser une question, les jeunes, je ne vais pas dire les enfants, parce que ça fait un peu bizarre, les enfants. Mais les jeunes, est-ce que vous avez déjà posé la question à vos parents, maman, papa, est-ce que tu avais la famille idéale? Est-ce que pour toi c'était facile? Ou est-ce que ça a été aussi difficile dans ta famille? Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à la famille de vos parents? Est-ce que c'était facile ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'eux, peut-être, ont aussi vécu des moments difficiles où ils ont dit « Mais Dieu, pourquoi tu m'as mis dans cette famille ?» Est-ce que vous avez déjà demandé à vos parents s'ils avaient eu la famille parfaite et que pourquoi vous n'étiez pas à nouveau dans la famille parfaite? Posez-leur la question, ce sera intéressant d'entendre leur réponse. Honorer, c'est aussi respecter l'autorité de nos parents. Attention, là, ça se complique, c'est-à-dire obéir. Leur obéir, d'accord? Amen, là les enfants vous devez dire amen, timidement mais sûrement, d'accord? Amen. Et là ça se complique, on est d'accord? Obéir, du mot upakuo. Upakuo, c'est pas indien, c'est hébreu. Ça veut dire écouter, prêter l'oreille à, se soumettre à. Écouter, prêter l'oreille à, qu'est-ce que tu as dit? D'accord, je vais ranger ma chambre, d'accord. Se soumettre à... Oui, je vais faire la vaisselle, d'accord. Je ne me rappelle pas, mais je suis sûr que lorsque j'étais très petit, j'obéissais à mes parents sans trop de difficultés. Quoique, j'ai dit bien quoique, j'ai rapidement décidé de m'opposer à certaines de leurs demandes. Je ne sais pas à quel âge, je ne m'en rappelle pas. Mais parce que je voulais sûrement dire, c'est non, je veux ce que je veux. Et quand je vois mes neveux, ils n'ont même pas 2 ans, c'est non. Tu vas prier pour le repas? Non. Le non, c'est le mot premier qui est dit, je pense, par un enfant. C'est pas papa, c'est non. Il y a cette nature merveilleuse de l'enfant qui vient dire non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas me soumettre à ce que tu me dis. Non, je suis rebelle. Non, je suis désobéissant. Non, je suis pécheur. Et je l'assume. Pas vraiment, mais je le dis. Ça, c'est quand on est petit. Et quand on grandit, ce n'est pas beaucoup mieux. Je vous rassure. Mais Dieu peut faire des miracles. Obéir, c'est facile lorsque nous sommes d'accord avec ce qu'on nous demande de faire. Si on est en accord, ça va, d'accord? Si on nous dit « va regarder la télé », oui, d'accord, je suis d'accord d'aller regarder la télé. Si on nous dit « tu me donnes ton téléphone ce soir, tu ne seras pas sur ton téléphone », là, on n'est pas d'accord, et là, c'est plus difficile de dire « oui, maman, tiens mon téléphone ». J'en ai un autre, c'est pas grave. Ça peut être ça aujourd'hui, je suis sûr, on est tellement malins, les jeunes, quand ils sont trop malins. Mais obéir quand on n'est pas d'accord, là, c'est autre chose. Dieu nous appelle à écouter nos parents, à se soumettre à leurs directives, car c'est un apprentissage pour notre vie personnelle, je le dis haut et fort, mais aussi pour notre chemin spirituel. Ça veut dire, je ne sais pas si vous comprenez, que même dans l'autorité de vos parents, Dieu utilise ça pour préparer votre attitude spirituelle. Au moment où lui vous appellera et vous demandera quelque chose, si vous n'avez pas été sous l'autorité déjà de vos parents, ça sera encore plus dur de vous humilier devant Dieu et de reconnaître que sa voix doit être écoutée. Donc nos parents sont utilisés pour nous amener vers Dieu. Amen. C'est fou, hein, vous ne vous rendiez pas compte de ça, mais c'est la réalité. Quand il vous énerve, Dieu il est là. T'inquiète pas, j'ai le truc, je m'en occupe. Mais ce qui est aussi dingue, c'est que c'est dans l'obéissance que nous apprenons la soumission, et cela produit en nous un cœur tendre, comme je dis, avec lequel Dieu peut travailler et accomplir sa volonté. C'est dans ces moments-là, c'est lorsqu'on obéit, c'est là où notre cœur s'attendrit, et c'est là où on commence à être préparé par Dieu pour le plan qu'il avait déjà prévu pour nous. Parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'en suis la preuve. À 36 ans, bientôt pasteur, certains ne me connaissent pas, mais pendant plus de 10 ans de ma vie, je dealais, je fumais. Mes parents, ils avaient des cheveux blancs, ils en avaient déjà avant, mais surtout plus parce que je n'écoutais pas ce qu'ils me disaient et je faisais ma propre vie, très loin de Dieu. Aujourd'hui, j'ai envie de voir le Seigneur toucher des vies, transformer des vies et lui donner encore plus de ma vie parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse et qui me passionne plus que sa vie. Donc il y a de l'espoir. Mais ce que je me dis, c'est que l'obéissance, c'est quand même bon. Parce que si mes parents ne m'avaient pas interdit de mettre les mains sur la cuisinière, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de brûlures sur les mains. Si mes parents ne m'avaient pas retenu lorsque je mangeais, et toutes mes envies, les barres chocolatées, quand on part au magasin, je veux celle-ci, nanana. Aujourd'hui, j'aurais sûrement des gros problèmes de santé. Si mes parents ne m'avaient pas interdit de sortir à certains moments, peut-être aujourd'hui, j'aurais eu un accident où je me serais mis avec des personnes qui n'auraient pas été bonnes pour ma vie. Je pense que dans nombreuses fois où vos parents vous ont interdit quelque chose et vous ont protégé. Amen. D'accord. Vous n'êtes peut-être pas encore conscient. Au début, c'est plutôt « là, tu me saoules, papa, là, tu me saoules, maman. J'avais une sortie, ça allait être trop cool, on allait aller en discothèque, tac, tac, tac. La première fois, j'ai 18 ans, tu me saoules, j'ai envie d'y aller. » Non, vas-y pas. Vas-y pas. C'est dur. C'est dur. Nos parents, aussi imparfaits qu'ils sont, souhaitent nous donner le meilleur. Du moins, ils essaient. Pour la majorité d'entre eux. Et ceci est d'ailleurs pourquoi ils travaillent des fois beaucoup. Et je pense ici, d'ailleurs il y a des parents qui n'ont pas pu venir ce soir parce qu'ils travaillent. Et encore aujourd'hui, je vois combien de parents travaillent le matin, Ensuite, ils finissent un travail à 2 heures et ils vont faire un autre travail. Pourquoi ? Pour que monsieur, le jeune, il ait son iPhone XS, pour qu'il puisse avoir ses sorties, pour qu'il puisse sortir au McDo avec ses potes, etc. Les parents se donnent corps et âme pour leurs enfants. Et ça, c'est la majorité. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde, tous les parents, et j'en suis bien triste. Parce qu'il y a des parents, c'est vrai, ils ne souhaitent pas le meilleur pour leurs enfants. Que se passe-t-il justement quand ces parents, qui sont peut-être pas en train de souhaiter le meilleur, demandent des choses injustes ou des choses qui ne sont pas bonnes pour les enfants ? À ce moment-là, c'est quoi l'obéissance ? Est-ce qu'on doit obéir ? Il arrive que nos parents agissent mal pour différentes raisons. Et ces raisons, je vous propose vraiment, en tant qu'enfant, de poser les questions à vos parents. Qu'est-ce qui fait que tu as réagi comme ça, papa, maman ? Parce que peut-être, justement, il y a des antécédents. Peut-être il y a des antécédents. C'est peut-être le produit de blessures. Et leur réaction va produire des blessures aussi à vous. On en a tous. Certaines de ces blessures ont produit la colère et une rébellion encore plus grande face à l'obéissance, face à l'autorité, face à la figure paternelle, face à Dieu. Notre regard est complètement tordu lorsque la famille ne représente pas le plan de Dieu, lorsque mon père ou ma mère ne se comporte pas comme le Père céleste aurait souhaité, alors notre regard de Dieu est complètement faussé. On imagine un Dieu colérique, on imagine un Dieu qui nous abandonne, on imagine un Dieu qui n'est pas avec nous, on imagine un Dieu qui n'a pas envie que ça se passe bien. Et sûrement quelques-uns d'entre vous ici ce soir l'avaient déjà pensé, et peut-être c'est le portrait que vous avez de Dieu. Mais ce n'est pas son portrait. Est-ce que c'est toujours important d'obéir à nos parents, même si ceux-ci ne sont pas justes avec nous ? Je vous encourage à le faire. Parce que vous savez quoi ? Dieu va regarder votre attitude et votre cœur. Lorsque vous serez devant lui, qui que vous soyez, vous ne pourrez pas dire « Ouais, parce qu'il m'a maltraité, je l'ai maltraité, j'ai été frappé d'autres personnes parce que je me suis fait frapper. » Aussi dur ce que c'est, et je le pense, et je pèse ces mots, devant Dieu, vous ne pourrez pas dire « Voilà, je me suis comporté comme ça parce que... » On devra rendre des comptes pour notre attitude personnellement. Devant Dieu, on ne pourra pas commencer à dire « Voilà, mon père, ma mère, ça, si, ça, c'est ta vie face à Dieu. » Et ça, c'est la réalité et la vérité. Peu importe comment se sont comportés vos parents, malgré les faiblesses et les fautes de vos parents, de mes parents, les fautes que je ferai en tant que futur papa. Mais alors, jusqu'à où on doit obéir ? Jusqu'à où ? Jusqu'à quel point obéir ? Laissez-moi vous dire jusqu'à quel point. Jésus nous le montre lui-même, jusqu'à quel point on doit obéir. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Quoi ? Obéir jusqu'à la mort ? Nico, tu es un malade là ! Non, non. Voilà le coût de l'obéissance pour notre désobéissance. Notre désobéissance a coûté la mort de celui qui a été d'accord d'obéir en tout point à son Père. L'obéissance jusqu'à la mort, celle de Jésus. Jésus l'a fait en tant que fils car il connaissait son Père. Il savait qu'il avait un plan juste et bon et que l'obéissance lui permettrait de voir ce plan s'accomplir. Amen. C'est pour ça qu'il a obéi jusqu'à la mort, parce qu'il avait confiance en son Père. Il savait que, quoi qu'il arrive, son Père avait quelque chose de prévu, même à travers une mort si atroce. Jésus est venu sur terre, tel un fils obéissant et soumis pour pardonner nos péchés, notre désobéissance et manifester l'amour de son Père. Aujourd'hui, je pense qu'il est à point de dire que Dieu, car Dieu le Père, t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que tu croies en lui et ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Parce qu'il t'a tellement aimé, et il savait que tu étais incapable d'obéir, que nous étions incapables d'obéir. Alors il a dit, il faut que j'envoie mon Fils, celui qui me représente parfaitement, lui qui sera obéissant parfaitement et qui m'obéira jusqu'à la mort pour éradiquer ce péché, cette désobéissance. C'était le seul moyen pour rétablir la relation qui avait été brisée. Il fallait que Jésus, le Fils de Dieu, vive en étant obéissant en tout point à son Père et qu'il vienne représenter le Père ici sur terre. Car Jésus, la seule chose qu'il a fait durant toute sa vie sur terre, c'est représenter le Père. Il a dit, moi je fais qu'une seule chose, ce que le Père me dit. Il n'y a rien que je ne fais pas, que le Père me dit de ne pas faire ou que je fais. C'est tout vient de ce que le Père me dit de faire. Tout, va à la croix, j'y vais Père. S'il n'y a pas d'autre solution, j'y vais. Parce que je sais que tu as un plan derrière ça. Notre image de Dieu comme Père est souvent incompatible, car elle ne correspond pas à notre image du Père terrestre. Il y a souvent un tel décalage, il peut même y avoir de tellement grandes blessures à ce niveau. Tant d'enfants se sont trouvés avec un Père absent, violent, méchant, exigeant, impatient, tout sauf l'image d'un Père aimant et bienveillant. Laissez-moi vous dire une des choses que je réalise après 3 ans que je suis ici pasteur et que j'accompagne des jeunes, c'est combien les jeunes sont à la recherche d'un père. Combien les jeunes ont vécu des douleurs parce qu'ils n'ont pas eu leur père. Soit parce qu'il a trop travaillé, soit parce que lui-même n'a pas eu de père, soit parce qu'il a eu des soucis et que ces soucis l'ont amené à avoir des comportements qui n'étaient pas bons. Et malheureusement, il n'a pas pu être le père que Dieu souhaitait qu'il soit pour cet enfant. Peut-être pour toi ici ce soir. Peut-être pour toi papa. Peut-être pour toi enfant. Nous ne pouvons vivre une relation saine avec nos parents si nous ne sommes pas d'abord réconciliés avec le Père, celui que Jésus nous présente. Ce n'est pas possible. Nous devons d'abord devenir fils et filles de Dieu avant de devenir père et mère. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen, un seul moyen. Lequel ? C'est Jésus. Venir à Jésus-Christ, celui qui nous réconcilie avec le Père, celui qui nous apprend à pardonner, celui qui nous a pardonné. Il y a un seul moyen, c'est d'être réconcilié avec le Père pour que je puisse être réconcilié avec mon Père. Pour que tu sois réconcilié avec ta mère, pour que tu sois réconcilié avec ton fils, pour que tu sois réconcilié avec ta fille, tu dois d'abord te réconcilier avec le Père. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Est-ce que tu connais Jésus ce soir ? Est-ce que tu connais le Fils ce soir ? C'est ma question. Est-ce que tu connais le Fils qui révèle le Père ? Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas connaître le Père. Tu ne peux pas connaître le Père. Jésus désire nous rappeler que nul n'est parfait, que nous avons tous manqué la cible. Nous avons tous échoué, tous. Rassure-toi, tu n'es pas plus mauvais qu'un autre. On a tous foiré. Nous avons tous désobéi à nos parents. Et nos parents, en retour, nous ont irrités. Nous sommes devenus tristes et divisés dans notre relation. Et cela a produit beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Et c'est ce que je vois depuis 3 ans. Beaucoup de souffrance dans les familles. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi ? Parce que beaucoup ne sont pas réconciliés avec leur père. Alors ils essayent, mais ils n'arrivent pas. Et le diable se réjouit. Il continue. Il s'acharne. Il s'acharne sur vos parents. Il s'acharne sur vos familles. Afin d'enlever tout espoir de voir une réconciliation. Afin d'enlever tout espoir de croire que Dieu peut transformer cette situation en source de vie. Certains d'entre vous ici ce soir, vous avez honte de ce que vous avez fait. Certains d'entre vous ici ce soir, vous dites, mais c'est pas possible de restaurer la situation qui s'est passée avec mes enfants ou avec mes parents. Et moi, j'aimerais vous dire que ce soir, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Si tu reconnais le Père, si tu te réconcilies avec le Père, si tu rencontres Jésus. J'aimerais vous rappeler que dans toutes ces situations injustes et douloureuses, Jésus était là. Lorsque vous avez été blessé, il était là. Lorsque vous avez été rejeté, il était là. Lorsque vous viviez des injustices, il était là. Et à chaque fois que vous avez reproché à Dieu d'être absent, il était encore là, avec ses bras ouverts pour vous aimer et pleurer avec vous. Emmanuel, le Dieu qui est avec vous. Et je ne crois pas que c'est pour rien que ce chant a été chanté ce soir. Il était là. Nous sommes tous égaux, enfants et parents, identiques dans notre nature pécheresse, incapables de produire quelque chose de bon par nos forces. C'est dur à l'accepter. Ce soir, j'essaye de vous parler avec amour, mais je dois vous parler de la vérité. On est incapable de faire quelque chose de bon par nos forces. Notre nature nous rattrape toujours. Nous avons essayé, mais nous avons échoué. C'est pourquoi Jésus est venu, tel un fils, nous offrir sa vie pour pardonner nos péchés, mais aussi et surtout pour nous réconcilier avec le Père. Pardonner. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Tout ce que tu as fait, que tu n'aurais pas dû faire, c'est pardonné. Il n'a rien gardé. Et c'est le psaume que tu lisais, je ne sais pas si c'était le psaume 103 que tu lisais. Hein. Ouais. Qu'il oublie nos péchés, qu'il les sépare de l'ouest à l'est. Il les oublie. Peu importe ce que tu as fait, il te pardonne. Est-ce que toi, par contre, tu es prêt à pardonner? Lui t'a tout pardonné. Est-ce que toi, tu es prêt à pardonner à ceux qui t'ont offensé? Il n'est pas simple de réaliser que nous avons besoin de retrouver notre place de fils et de fille. Cela demande de l'humilité. Accepter d'avoir fait faux, accepter que nos parents aient pu faire faux, accepter que Dieu ne se soit pas trompé et qu'il reste bon et plein d'amour pour nous, malgré tout. En acceptant la mort de Jésus à la croix, en reconnaissant le cœur du Père manifesté par le Fils, nous pouvons nous rapprocher de Dieu et recevoir son amour qui nous restaure pleinement. Je vous demande encore quelques minutes, j'arrive au bout de ce message. En étant restauré avec le Fils, on reçoit l'amour qui nous restaure. Qui c'est qui a besoin de restauration ce soir? Levez pas vos mains, mais beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous avons besoin de restauration. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple, je dois m'avancer vers le Père et lui faire confiance. Peut-être que dans ta vie, tu n'as pas été encouragé par ton père ou ta mère, mais sache que Dieu était présent à chacun de tes accomplissements. Ton premier mot, tes premiers pas, il était là. Si ton père n'était pas là, lui, il était là. Si ta mère n'était pas là, lui, il était là. Au moment où tu t'es levé. Au moment où tu as essayé le vélo, t'es tombé, il était aussi là. Au moment où tu as gribouillé ton premier dessin, Monsieur Bonhomme Patate, il était aussi là pour dire « C'est magnifique, c'est un Picasso !» Mais il était là. Ton premier jour d'école, il était là.
Il était là, vas-y mon fils, vas-y ma fille, je suis avec toi. Au moment où tu pleurais parce que tout le monde se moquait de toi, il était aussi là. Il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais laissé. Parce qu'il t'a souhaité avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Il ne t'a jamais, jamais abandonné. Ce soir, parents et enfants, on est identiques devant Dieu. Et peut-être que ce soir, ton cœur crie. Je suis seul, je me sens abandonné, je me sens orphelin. Je ne me sens pas fils, je ne me sens pas fille. Votre parcours, vos blessures, vos frustrations, vos incompréhensions vous ont éloigné du cœur du Père. Aujourd'hui, Dieu vous semble si loin et si dur. Mais pourtant, vous désirez le rencontrer, le connaître, le reconnaître. Ce soir, j'aimerais vous inviter à retrouver votre Père, celui qui vous a souhaité depuis le début, qui vous a supporté lorsque vous étiez en colère contre lui et qui vous a jamais rejeté, celui qui souffre lorsque vous souffrez et qui se réjouit lorsque vous accomplissez quelque chose dont vous êtes fier. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba, Père ! Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que ce soir, tu peux dire « Je suis fils de Dieu ! » J'ai reconnu mon Père, je connais mon Père, je lui fais confiance. Peu importe ce qui se passe, peu importe les mésaventures, peu importe les injustices que je vis dans mon quotidien, dans ma famille, peu importe si j'ai perdu mes parents, peu importe ce qui s'est passé, j'ai connu mon Père, je reconnais Dieu mon Père. Et j'ai confiance et je sais que jamais il ne m'abandonnera. Osez dire à Dieu, je me sens orphelin, si c'est le cas. J'ai besoin de retrouver mon Père céleste. Celui qui m'a toujours désiré et qui m'a toujours aimé et qui restaure mes relations. Qui restaure mes relations. C'est ce que Dieu produit par son esprit dans nos vies. Sommes-nous prêts à lui remettre nos blessures, nos colères, nos craintes et crier « Abba, Père ». Est-ce qu'on est prêt à faire ça ? Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Des relations saines dans la famille, dans les familles. Un père qui pardonne à son fils, une fille qui pardonne à sa mère, une fille qui pardonne à son père, j'y crois, je le vois. Aujourd'hui, je le vois dans le groupe de jeunes, je vois des familles restaurées. J'en regarde une devant moi et je bénis le Seigneur parce que je crois que lorsqu'on retrouve notre identité, la restauration est possible sur tous les plans. Lorsqu'on est restauré avec le Père, on peut restaurer avec nos frères et nos sœurs, avec nos parents. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que Seb, tu peux venir alors que je vais juste lire une histoire pour terminer, juste quelques notes pour qu'on puisse laisser juste Dieu nous toucher encore maintenant. En venant, ou peut-être en revenant au Père, et en acceptant de devenir un fils, une fille souhaitée et aimée de Dieu, nous retrouvons des relations souhaitées et prévues par Dieu, saines, respectueuses, pleines d'amour, là où le pardon coule, là où les regrets sont oubliés, là où les injustices sont effacées pour faire place au pardon. Là où la tristesse se remplace en joie, parce que Dieu restaure aussi ma tristesse de ne pas avoir eu de père, de ne pas avoir eu de mère. Et dit, j'étais là, je deviendrai ton père et je te remplirai de ma joie. Sawat avait déshonoré sa famille et sali le nom de son père. Il avait quitté son village pour échapper à l'ennui et se mettre en quête de sensations. En réunissant dans un style de vie déréglé, il avait même acquis une certaine popularité. Dès son arrivée dans la grande ville de Bangkok, il s'était rendu dans un hôtel, différent de tout ce qu'il avait vu jusque-là. Chacune des chambres disposait d'une fenêtre donnant sur un corridor, et dans chacune de ces pièces se trouvait une fille. Les plus âgés souriaient et riaient même. Les autres, qui avaient que 12 ou 13 ans en plus, souvent moins, avaient l'air inquiets et même terrifiés. C'est ainsi que commença l'aventure de Sawat dans ce monde de prostitution. Il fut vite pris dans l'engrenage, enlevé comme un fétu de paille dans un torrent déchaîné, dont le courant était bien trop rapide et puissant pour lui. Bientôt, il vendit de l'opium aux clients et amena les touristes dans cet hôtel spécial. Il tomba même assez bas pour participer à l'achat et à la vente des filles, dont certaines n'avaient pas 10 ans. C'était un travail des plus vils. Il devint un homme d'affaires, notoire dans ce milieu. Puis il perdit pied. Son univers s'écroula à la suite d'une série de malchances. On lui vola ses biens et en essayant de remonter la pente, il fut arrêté. Le bruit courait dans le milieu qu'il était espion de la police. Il finit dans un taudis près de la décharge municipale. Et là, dans ce bouge, il se mit à penser à sa famille, à son père tout particulièrement, un humble chrétien d'un tout petit village du sud, près de la frontière Malaisie. Il se souvint des paroles d'adieu de son père. « Je t'attends !» et se demanda si son père l'attendait toujours, après tout ce qu'il avait fait. L'accueillerait-il à la maison ? Le village avait depuis longtemps reçu les échos de sa vie dissolue. Finalement, il dressa un plan d'action. Il écrivit d'abord à son père. « Cher papa, je voudrais rentrer, mais je ne sais pas si tu me recevras après tout ce que j'ai fait. Père, j'ai beaucoup péché. Pardonne-moi. Je serai dans le train qui passe par le village. Si tu m'attends toujours, accroche, s'il te plaît, un morceau de tissu blanc sur une des branches de l'arbre devant la maison. » Signé Sawat. Pendant tout le trajet, il médita sur les derniers mois de sa vie passée et il savait que son père avait toutes les raisons de le rejeter. Quand le train se rapprocha enfin du village, son cœur était bouleversé d'angoisse. Qu'allait-il faire s'il n'y avait pas de tissu blanc sur l'arbre? En face de lui se trouvait un étranger au bon visage qui avait remarqué la nervosité de son compagnon de voyage. Sawat, qui n'en pouvait plus, finit par déverser toute son histoire dans un flot de paroles. À l'entrée du village, Sawat lui dit « Monsieur, je n'ai pas le courage de regarder. Pourriez-vous le faire à ma place? Et si mon père ne voulait plus de moi ?» Sawat s'inclina, la tête courbée sur les genoux. « Là voyez-vous, ma maison? C'est la seule avec un arbre devant. Jeune homme, votre père ne s'est pas contenté d'accrocher un seul morceau de tissu. Regardez l'arbre, tout entier est couvert. Sawat eut du mal à en croire ses yeux. Les branches étaient pleines de tout petits carrés blancs. Dans la cour, son vieux père allait de long en large en agitant joyeusement un carré de tissu blanc. Puis il se mit à courir en trébuchant le long du train. Quand enfin le train s'arrêta en gare, il se jeta au cou de son fils et l'embrassa des larmes de joie. « Je t'attendais !» s'écria-t-il. « Je t'attendais !» Ce soir, c'est ce que ton père te dit. « Je t'attends !» J'aimerais que vous puissiez tous fermer vos yeux, s'il vous plaît.